3 heures. Hein. Je vais essayer, je te garantis rien, mais. Déjà, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Je voudrais vous transmettre les salutations de l'église de Carpentras, vous remercier pour l'invitation, et j'espère que, à la fin de la prédication, personne ne me jettera des pierres. Avant ça, j'aimerais prier, et puis après vous poser une petite question. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps ensemble, ce temps où on peut étudier ta parole librement. Ce temps où on peut se placer devant toi, écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur, et être transformé à ton image toujours un peu plus. Merci d'être là, d'être présent au milieu de nous, d'être aussi présent avec tous ces enfants, Seigneur. C'est une grâce et une bénédiction que tu donnes à cette église. Et Seigneur, que tu bénisses Annise et Léonore. Et Seigneur, que tu leur fasses du bien. Amen. Normalement, tu as un PowerPoint sur l'ordinateur. Il est là. Ok, vas-y, je peux passer à la slide avant. Est-ce que vous savez ce que c'est ça?
Le repas de midi.
Yes. C'est de la potée, exactement. Alors, voilà, moi si je sers ça à mes enfants, j'en ai pour une heure de cris, de pleurs et de disputes. Parce que ça donne pas envie. Et si tu peux mettre la slide d'après. Et ça, c'est la même chose. C'est un peu plus attrayant, c'est plus travaillé. C'est surtout mis au goût du jour. Potée revisitée, exactement. Ce matin, on va voir comment la première église, donc à la suite du discours de Pierre à la Pentecôte, va s'organiser. Et souvent, on idéalise un petit peu l'église primitive en se disant que c'est génial parce qu'ils vivent tous ensemble, ils ont tout mis en commun. On va voir comment est-ce qu'ils s'adaptent finalement à leur contexte et savoir comment est-ce que, quelles pistes nous on pourrait en tirer pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que l'Église du 21e siècle pourrait s'adapter aux besoins de l'époque? Avant ça, j'aimerais qu'on lise ensemble le texte qui va s'afficher, si vous n'avez pas de Bible, sinon c'est Acte 2, à partir du verset 37. Donc Acte 2, 37, ça dit ceci. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent, donc le peuple qui écoutait Pierre, eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ?» Et Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi en aussi grand nombre pardon, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se rendaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc, suite au discours de Pierre, Luc nous rapporte ce qui se passe ensuite. Donc, ceux qui écoutent Pierre ont le cœur vivement touché. Ils ont le cœur vivement touché et ils posent cette question. Maintenant qu'on est, on est attiré par ce que tu nous dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre de répondre, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et l'évangile produit toujours dans nos cœurs, ou doit en tout cas produire, un désir d'un renouveau, d'une vie différente, d'une vie comme Dieu l'avait voulu au commencement, une vie où il règne et où nous sommes près de lui. Et la seule façon d'accéder à cette vie, c'est la repentance, c'est-à-dire de faire demi-tour, que notre vie doit prendre un virage à 180 degrés pour ne plus aller dans le sens du monde, mais vivre à contre-courant du monde qui rejette Dieu et ses valeurs. Un petit éclairage du verset 28 qui pourrait laisser que la repentance plus le baptême donne la nouvelle naissance. La Bible Darby traduit « Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, entre virgules, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc je préfère enfoncer une porte ouverte tout de suite. C'est-à-dire que la seule chose qui sauve, c'est la repentance. Le baptême, c'est juste un signe visible de ce qui se passe à l'intérieur lors de la repentance. La repentance, le baptême, pardon, ne sauve pas et ne nous donne pas accès au Saint-Esprit. Le baptême, donc dans le texte même là, est lié directement à la repentance et pas à la venue de l'Esprit en nous. Et donc Pierre, ensuite, je me permets, je vais me prendre le texte sous les yeux aussi. Qui dit en 39, « En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ça, c'est un des grands thèmes que vous retrouvez tout le long des Actes. Jésus, en Matthieu 28, dit « Vous serez, je serai tous les jours jusqu'avec vous, jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Luc, verset 1, Jésus, avant de monter au ciel, dit « Je vous donne la puissance du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ici, pareil, la promesse, donc, c'est-à-dire celle que Jésus donnait aux hommes pour leur pardon de péché, et pour vous, pour vos proches, mais aussi pour ceux qui sont au loin. L'évangile n'est jamais quelque chose de statique. C'est tout. Il y a toujours un mouvement dans l'évangile. Et c'est quelque chose qui doit nous saisir. Parce qu'on ne peut pas seulement garder l'évangile pour nous. Ce n'est pas seulement la bonne nouvelle pour moi, mais c'est aussi pour ceux qui m'entourent et aussi pour ceux que je connais moins, qui sont dans un cercle moins proche de moi. Donc Luc précise que Pierre donne beaucoup d'encouragement, qui l'exhorte l'auditoire. Donc Luc donne au final qu'une toute petite partie de tout ce que vous avez pu voir avant, de ce que Pierre dit. Pour moi, c'est assez frustrant, parce que voilà, forcément, on aurait voulu être là comme une petite souris, savoir ce qui se passe, comment il le dit, qu'est-ce qu'il dit exactement dans les détails. Parce qu'au final, c'est tellement beau ce qui se passe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a 3000 personnes qui se font baptiser et qui comptent parmi les disciples. Souvent, quand on voit les églises plus charismatiques, on dira, je ne sais pas si vous connaissez, l'église Momentum, ils font des fois des baptêmes, 50, 100 personnes. On se dit, waouh, c'est excellent. Imaginez 3000 personnes. Comment ça doit être long? Ça, c'est du travail à la chaîne un petit peu. Hop, un, deux, si vous... Si chaque personne qui témoigne donne 2 minutes de témoignage, ça fait 100 heures. C'est quand même assez long. On espère pour eux qu'ils sont répartis par petits groupes. Mais ça aussi, moi j'aurais bien voulu être une petite souris, savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils disent exactement. Mais le plus important n'est pas là. Parce que justement, on n'a pas une chronologie précise dans le livre des Actes. Et on va le voir qu'il y a déjà pas mal de temps qui va se passer juste entre verset 41 et verset 42. Mais je propose qu'on prenne un petit pas de recul sur ce qu'on a vu, ce que le texte dit. Et la première chose, est-ce que vous avez le cœur vivement touché ce matin? Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Alors, s'il y en a qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie ce matin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous passiez ce cap-là? Il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus grand que de reconnaître Jésus comme son Sauveur et comme son Seigneur. Lui qui a subi le sort que je méritais, la condamnation que je méritais pour me donner la vie qu'il avait en lui. Et si vous êtes converti ce matin, est-ce que vous êtes plein de zèle pour Dieu? Est-ce que votre cœur est vivement touché par l'Évangile ces derniers temps, ces dernières semaines? Si vous lisez le plan de lecture de l'Église, normalement vous avez dû lire Éphésiens et 1 Jean. Vous devriez être dans 1 Jean, si je ne me trompe pas. Je suis dedans, c'est bon. Juste déjà Éphésiens, comme c'est beau, la grâce de Dieu, comment Paul la décrit, comment Paul décrit cette justice, cette passion que Dieu a pour les pécheurs. C'est un peu comme dans la relation avec le conjoint, si vous en avez ce privilège-là. C'est-à-dire que, ben voilà, ça fait 13 ans que, excusez-moi, j'ai perdu le compte, que je suis marié. Et il y a besoin de temps en temps de se remettre peut-être un coup de pied aux fesses pour raviver un petit peu les choses, pour que sortir un petit peu de la routine du quotidien et pour séduire l'autre à nouveau. Et c'est un peu pareil avec Dieu, à part que là, c'est moi qui dois me laisser séduire par lui. Parce que sa parole ne change pas, elle reste toujours la même, pleine de grâce, pleine de promesses, pleine de vérité. Je dois me laisser captiver tout à nouveau par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jean nous a partagé. Est-ce que je suis dans la joie ce matin? Cette joie de se savoir aimé du Dieu de toute éternité. Alors comment faire ça? Peut-être simplement en changeant de version de votre Bible. Peut-être en prenant un temps de jeûne particulier. Et peut-être, et surtout, et c'est ce qui va nous intéresser ce matin, c'est l'évangélisation. Je dois être intentionnel dans tout ce que je fais. Que ce soit dans mon temps de lecture avec Dieu, dans mon intimité avec lui, je ne dois pas le faire par habitude, je dois le faire par intention. Les auditeurs de Pierre sont intentionnels. Ils disent maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et nous, aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour grandir avec toi? Petit principe de lecture de la Bible, quand vous lisez des textes narratifs, ils ne sont pas normatifs. C'est-à-dire, par exemple, pour l'évangélisation, ne partez pas d'Abraham, de David, des prophètes, pour parler de Dieu à ceux qui vous entourent. Peut-être, je pense, ils seront plus vite perdus qu'autre chose. Mais nous devons, en tant que chrétiens aujourd'hui, partager cette bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité pour chaque personne qui nous entoure. Pierre adapte son évangélisation à sa culture, c'est-à-dire qu'il part de ce que les hommes et les femmes qui l'écoutent connaissent. Donc là, pour le coup, Abraham, David, pour eux, ça leur parle. Mais il ne faudrait pas tomber dans le piège. Et je pense que l'Église moderne tombe un petit peu là-dedans. C'est-à-dire qu'elle s'adapte tellement à la culture qu'elle en oublie certaines choses. On brosse peut-être les gens trop dans le sens du poil, en parlant de l'amour de Dieu, qui est vrai et qui est une vérité tellement incroyable. Mais c'est pas seulement Dieu m'aime et il s'est sacrifié pour moi. C'est Dieu veut faire justice. Et un jour, Dieu reviendra et Dieu jugera l'humanité. Il y a des choses difficiles à dire. Et ce qui est incroyable, c'est que 3000 personnes se convertissent, et pourtant, quand Pierre donne son discours dans le livre des Actes, il leur dit des choses comme ça. Je ne sais pas si vous me direz si ça vous viendrait à l'esprit de le dire. Il dit au verset 23 d'acte 2, « Cet homme que vous avez fait mourir. » Donc ce n'est pas hyper accusateur, mais quand même un petit peu. Verset 36, « que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc en acte, Pierre il est zéro. Vraiment, c'est une bille. Et pourtant, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Soyons dans la vérité. Soyons prêts à dire des fois des choses qui dérangent. Sans pour autant faire cas de notre cœur, on est tout autant pécheur que les autres. On n'est pas meilleur, mais il y a des choses qu'il faut des fois mettre en lumière. Des fois, on a tellement peur d'être taxé de ringard, d'empêcheur de tourner en rond, au mieux, pour éviter d'autres termes un peu plus crus, que parfois on tait certaines choses. On tait certains comportements au travail pour ne pas passer pour le lourdingue. Alors qu'on devrait dire, ok, mais moi, ça, je ne peux pas rigoler. Ça, moi, je ne fais pas parce que je crois en ça. Ce n'est pas forcément une prédication de 2 heures que je dois donner aux gens, mais c'est ça, ça ne correspond pas avec ma foi. Ça, pour moi, je ne peux pas, les gars. Chauffeur-livreur, voilà, il y en a qui volent ouvertement dans certains colis. Je dis, ben non, moi, je ne fais pas ça. Je ne partage pas avec vous, parce que ma foi ne me permet pas ça. Simplement, ce n'est pas des grands actes mais c'est une fidélité et une passion pour Dieu qui prime avant tout. L'évangélisation, c'est souvent le parent pauvre de l'Église contemporaine. Si on numérotait un petit peu les étapes d'une préparation au baptême, Bernard pourrait nous en parler ce matin, l'évangélisation, c'est pas dans les premiers trucs qu'on dit. C'est pas ce qui vient de suite. Et pourtant, Pierre l'amène directement à la suite. En tout cas, Luc le rapporte comme ça. Vous vous convertissez, vous vous baptisez, l'Esprit vient avec vous, et vous partagez cette bonne nouvelle. Ça semble assez simple. Combien c'est compliqué. Et en même temps, c'est là que vient la bénédiction, quand je partage l'Évangile. Quand je partage cet amour que Dieu a pour moi et qu'il a pour ceux qui m'entourent. Quand je partage cet Évangile, il y a une œuvre dans ma vie, une bénédiction que Dieu donne, pour moi, déjà en premier, et aussi pour ceux qui l'entourent, qu'ils soient d'accord, qu'ils l'acceptent ou qu'ils l'acceptent pas, ça c'est son choix. Pierre encourage ce témoignage. Est-ce que l'Évangile se limite à ce qu'on dit ? Non. Et c'est ce que dit la suite du texte. À partir de verset 42, je reprends la lecture. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et je propose qu'on regarde rapidement trois points ensemble. Ce que font tous ceux qui sont convertis, comment ils le font et à quelle fréquence. Je ne me suis pas foulé, je pense que le texte le dit comme ça. Vous êtes libre de me reprendre après si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'ils font en premier ? Ben, ils se retrouvent. Les croyants se retrouvent en groupe pour suivre l'enseignement des apôtres et passer un maximum de temps ensemble. Dans la version grecque, en fait, la fraction du pain et la prière sont la définition de ce qu'est la communion fraternelle pour Luc. Donc la fraction du pain, c'est pas seulement ce que nous on appelle la Sainte Cène, c'est plus un repas avec la Sainte Cène au milieu. Donc pour eux, la communion fraternelle, c'est prier ensemble, passer du temps ensemble en mangeant et en se rappelant ce que Jésus a fait pour eux. En gros, ils pratiquent les deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, en suivant l'enseignement des apôtres, et tu aimeras ton prochain comme toi-même en passant du temps ensemble. C'est pas seulement ce qu'ils ont à dire qui est important, c'est aussi ce qu'ils ont à vivre ensemble. Et bien sûr, le mot-clé, c'est qu'ils persévèrent dans ça. Comme je l'ai dit, on n'a pas de facteur temps qui est clair dans ce texte-là. Si vous suivez la suite du livre des Actes, on voit que ben voilà, il va y avoir des emprisonnements, il va y avoir de la persécution, il va y avoir même des conflits dans l'Église, il va y avoir des morts. Et malgré tout ça, ils persévèrent ensemble dans la fraction du pain, dans l'enseignement. Et leur façon de vivre, elle est visible, parce que chacun, en les voyant agir, est dans la crainte. Il y a un grand, la crainte, c'est pas, ils ont peur des chrétiens, ils ont du respect pour eux. Parce que évidemment, ils voient des choses extraordinaires. Les apôtres, le texte le dit, ils font des miracles, ils attestent de façon visible ce qu'ils sont en train de déclarer. Parce que l'Évangile est aussi un point de départ. Donc Dieu donne aussi un moyen un peu plus particulier pour que les gens comprennent ce qu'il leur est dit. Pardon, oui, c'est bon. C'est vrai et c'est juste. Mais leur désir premier, il est là. Avant même d'annoncer, ils veulent vivre ce que l'Évangile dit. Ils font un choix intentionnel, passer du temps ensemble, persévérer ensemble dans la foi. La deuxième chose, comment ils le font ? Ils mettent tout en commun. Donc voilà, je vous invite aujourd'hui à tout. Vous vendez tout ce que vous avez, vous mettez tout en commun, vous vivez tous ensemble. Un petit rappel. Qu'est-ce qui se passe juste avant ? C'est la Pentecôte, il y a tous les juifs croyants qui viennent des quatre coins du monde pour aller à Jérusalem, vivre la Pentecôte. Et normalement, ils venaient et ils repartaient. L'élément qui change, c'est qu'après le discours de Pierre, ils veulent rester à Jérusalem. Ils veulent rester ensemble. Donc il y a un problème, c'est que ces gens-là, ils ont quoi ? Ben, ils ont rien, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas de carte bleue, ils n'ont pas de chéquier, ils ne peuvent pas vivre. Et Pierre ne les renvoie pas en disant « Retournez chez vous, allez récupérer tout ce dont vous avez besoin, puis revenez, et puis là, à ce moment-là, on va voir ce qu'on peut faire. » Non, ils décident de dire « Ok, il y a un besoin. Il y a un besoin, ces gens-là, ils n'ont rien. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'un toit où vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, on va vendre ce qu'on a. Et on va leur donner. Parce que c'est ça la plus grande preuve d'amour, de se sacrifier pour l'autre. Et on voit que, en faisant ça, ils n'ont ni trop, ni trop peu. Ça correspond aux besoins de ceux qui sont là. Est-ce que c'était une obligation de le faire ? Non. Avec Ananias et Saphira, on voit que ce n'était pas une obligation de vendre leurs biens. On voit que, dans la suite du texte, verset 46, ils se réunissent dans des maisons. Donc il y en a quand même qui ont gardé des maisons personnelles. Mais Dieu met à cœur de pourvoir aux besoins des uns et des autres. À l'instant T, l'Église réagit aux besoins qu'il y a. Et c'est ce qu'on a besoin d'apprendre. L'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment, ce n'est pas seulement la réunion hebdomadaire du dimanche, ce n'est pas les groupes de maisons, groupes de quartier, ça. Non, je préfère m'adapter au langage. L'Église, c'est vous, c'est les uns et les autres. Et comment je peux répondre aux besoins de l'Église ? C'est en connaissant les uns et les autres. Est-ce que peut-être il y a un couple qui a des jeunes enfants et qui a besoin d'une soirée en tête-à-tête ? Est-ce que peut-être tu as proposé de dire, écoute, est-ce que tu veux qu'on te prenne les enfants au moins une journée pour que vous passiez un peu du temps en amoureux ? Peut-être quelqu'un qui a des problèmes financiers. On va dire, écoute, est-ce qu'on peut t'aider ? Peut-être si moi j'ai plus de largesse financière. Peut-être une personne qui est un peu plus isolée, qui n'a pas sa famille à côté. Prendre des nouvelles un petit peu plus régulièrement que les autres. C'est ça, répondre aux besoins de l'Église. Avant même de répondre aux besoins plus pratiques. Non, un prédicateur, un groupe de louanges un peu plus étoffé, des locaux peut-être plus grands. Ça, ça semble urgent au premier abord, c'est secondaire. Le plus important, c'est de veiller les uns sur les autres. Et ce qu'il note le plus, c'est que chaque jour, donc ce sera la fréquence, ils le font eux chaque jour. Alors je ne sais pas si vous, dans vos emplois du temps, vous avez moyen de vous retrouver chaque jour ici pour prendre un repas, prier, étudier la parole et puis aller dans vos lieux de vie. Ça semble un peu compliqué, en tout cas eux, ils ont cette possibilité-là. Mais le plus important, c'est qu'ils le font dans la joie. Dans la joie, la simplicité de cœur et la persévérance. La joie ne signifie pas l'absence de problèmes, l'absence de difficultés, mais c'est malgré toutes ces difficultés, malgré tous les problèmes, je me réjouis parce que Dieu a tout accompli pour moi. Et c'est en lui et par lui que j'ai cette joie qui vient du ciel. Et cette joie et cette détermination qu'ils ont à se réunir ensemble produit un fruit. C'est-à-dire que le Seigneur ajoute chaque jour ceux qui devaient être sauvés. C'est pas seulement ce qu'ils ont à dire qui touche, c'est comment ils le vivent. Et on va voir qu'à certains moments, cette église des actes qui semble tellement belle et tellement intentionnelle et tellement, tellement puissante va perdre de vue la situation dans laquelle elle est. C'est-à-dire qu'on pense que c'est sûrement à cause du fait qu'ils mettent tout en commun, qu'ils vendent tout et qu'ils ne s'adaptent plus à l'évangile qui se répand, qu'il va se retrouver la famine et que Paul va devoir ramener la collecte à Jérusalem. Malgré toute cette puissance, l'Église, elle perd de vue. Elle dérape sur l'organisation et sur peut-être des fois des modes de fonctionnement qui sont là depuis longtemps. Parce qu'il faut faire comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on fait. L'Église, c'est pas, je le répète encore une fois, c'est pas votre local ni les réunions, c'est les uns les autres. Adaptons-nous. Une Église avec de jeunes enfants ne peut pas fonctionner comme une Église avec des seniors. Je prends deux exemples qui sont très différents. Parce que les seniors, eux, ils ont la liberté de pouvoir peut-être se réunir dans la journée, un plus de temps pour prier. Alors qu'une église avec des jeunes enfants, ben voilà, les parents avec des jeunes enfants, ils sont peut-être un peu plus dans le jus. Peut-être voilà, faire un samedi matin, trouver quelqu'un qui garde les enfants pour se réunir ensemble. C'est des organisations qui sont là. Mais c'est, est-ce que je suis intentionnel dans la façon dont je vis la communion avec les uns et les autres? Pour conclure, voilà, l'Église primitive, je veux le rappeler, elle est loin d'être parfaite. Elle est remplie autant d'hommes et de femmes pécheurs que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Mais elle nous enseigne ceci, elle est intentionnelle, en tout cas dans son désir. Celui de vivre ensemble et de grandir ensemble dans la foi. Elle veut prendre soin les uns des autres et elle est motivée dans ça par un amour sincère. Il persévère malgré les difficultés et recommence quotidiennement cela. Et enfin, ils trouvent leur joie en passant du temps ensemble. Comment mettre ça en place aujourd'hui? Et si on passait du texte aux actes? Et si on essayait d'être beaucoup plus relationnel, plus intentionnel dans nos relations? Je ne vais pas être plus long, je suis dans le timing. J'aimerais juste voilà, prendre un petit temps de silence, réfléchir, peut-être ce que le Seigneur veut vous mettre à cœur. Et ensuite, je terminerai par la prière. Père, merci parce que tu nous donnes ces exemples d'hommes, de femmes, de même nature que nous, qui vivaient l'Église différemment, dans un contexte différent, mais qui avaient ce même désir de te rencontrer, de passer du temps avec toi, et de passer du temps avec les frères et sœurs. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on est trop occupé, où on est tellement pris par nos emplois du temps qu'on délaisse, qu'on minimise tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu veux pour ton peuple. Seigneur, merci parce que on n'est jamais trop loin pour toi. Il y a toujours moyen de revenir à l'essentiel, à la simplicité. Seigneur, quelle joie ils avaient d'être ensemble et quelle simplicité ils s'organisaient, pardon, toutes les fois où peut-être on complexifie tellement les choses. Alors que tu nous appelles à avoir des rapports simples. Des rapports de gens qui s'aiment, Seigneur, des rapports d'enfants rachetés, de familles que toi-même tu as construites. Seigneur, donne-nous de pouvoir partager, de vivre cet évangile et de le partager autour de nous, Seigneur, pour être sel et lumière, comme tu nous l'appelles à l'être. Merci, Jésus, d'être là, de ne pas nous laisser seuls devant tant de complexité et tant de une charge tellement grande. Seigneur, qu'elle pourrait nous écraser, mais tu es là. Tu la portes avec nous, Seigneur, et tu œuvres en nous avant tout, Seigneur. Quel privilège, quelle joie, Seigneur. Amen.